Donc de ma droite à gauche, vous voyez bien donc Violaine Camachère, donc vous avez entendu tout à l'heure, qui a aussi piloté des études sur justement le public jeune, les adolescents dans sa bibliothèque. Agnès Rigollet, donc la maison du livre, de l'image et du son, c'est tout dire, hein, une médiathèque. Marie Paquet, dont on vous a rappelé son action à Saint-Priest en vous invitant à aller au salon, donc qui se tient très 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 prochainement. Et enfin Cathy Feinstein, dont on a parlé de ce matin aussi, en rappelant qu'outre son travail donc de bibliothécaire à Grenoble, c'est une formatrice connue et reconnue dans le milieu des bibliothécaires jeunesse. Hein. Voilà. Donc j'avais essayé très très schématiquement, hein, de construire un certain nombre de questions sur des mutations qu'on percevait quand même plutôt à la fin, je dirais, de la jeunesse, hein, dans la préadolescence, dans l'adolescence, même si la société évolue très vite, donc des choses qui étaient peut-être un peu plus dans l'adolescence se rapatrient aujourd'hui plus tôt, hein, concrètement dans beaucoup de bibliothèques, je sais pas, de quartiers difficiles de Paris, on dit, ah, c'est pas les 13 ans qui posent problème, c'est les 11-12 ans, hein, donc il y a quand même un rapatriement vers des tranches d'âge. Maintenant, ces mutations, et j'avais envie de poser ça comme première question, est-ce que franchement, on les sent déjà venir dans les bibliothèques jeunesse? Est-ce que c'est des préoccupations qui nous frappent? Ou est-ce que finalement les bibliothèques jeunesse ou les sections jeunesse bibliothèques sont un peu à l'abri de ça? Parce que justement, elles s'adresseraient peut-être à une minorité qui serait quand même plus classique, plus lectrice, ou parce qu'elles s'adresseraient définitivement à des jeunes, donc on est un petit peu à l'abri de ces orientations nouvelles. Voilà, c'était la première question à partir de laquelle j'avais envie de commencer. Alors, je ne sais pas, peut-être en adressant à droite, à Violaine, si elle veut bien prendre le flambeau.
Oui, alors les mutations du public et notamment par rapport à la demande du numérique, j'ai l'impression que pour le moment, on est un petit peu protégé au niveau des secteurs jeunesse, dans le sens où, selon moi, on est très mauvais dans ce qu'on peut proposer et par rapport à tout ce qu'on pourrait proposer. Ce qui nous sauve, c'est que pour le moment, le public n'attend pas encore véritablement ça de nous. C'est-à-dire que la demande, quand elle est faite, enfin, quand l'offre est proposée, il y a un vrai public qui est, je pense, est satisfait. C'est-à-dire qu'on serait effectivement légitime à entrer sur ce terrain du numérique. Sauf qu'aujourd'hui, en tout cas sur la ville de Lyon, on n'en a pas véritablement les moyens dans les secteurs jeunesse ou dans tous les secteurs jeunesse. Et donc c'est un peu ce qui nous sauve, c'est-à-dire que les parents qui viennent avec leurs enfants ou les enfants qui viennent à la bibliothèque ne viennent pas d'abord pour ça. Et heureusement parce qu'aujourd'hui on ne pourrait vraiment pas répondre à cette demande-là, mais c'est pas tant un problème des secteurs jeunesse qu'un problème beaucoup plus large de politique d'établissement et de moyens mis en place.
Agnès, qu'en pensez-vous?
J'ai peur d'aller, malgré la promesse de la Maison du Livre, de l'Image et du Son. C'est une promesse, le titre de la médiathèque dans laquelle je travaille.
Mais j'ai peur d'avoir un peu la même réponse que Violaine. Moi, je suis d'une génération qui n'est pas née avec les écrans. Et franchement, je me sens nettement en dessous de la technicité de notre public. Donc, je ne peux pas rivaliser avec leurs compétences. Par contre, j'ai l'impression que cette technicité, c'est des compétences au niveau d'un outil, mais que, bon, c'est la palissade, mais c'est un outil qui les mène vers une culture très hétérogène et de temps en temps sur certains contenus qui les dérangent. J'espère, je pense qui peuvent avoir encore besoin de nous. C'est-à-dire que je pense à de la BD ou je pense à des films, par exemple Jolies Ténèbres de Fred Wellman, je dis pour les bibliothécaires jeunesse qui sont peut-être là. C'est des produits, des œuvres qui brusquement peuvent placer notre public devant des questionnements où la maîtrise de l'outil ne servira à rien. Et j'espère qu'on va trouver, j'ai bien aimé l'intervention de la directrice de Reims, qu'on va trouver notre place pour les accompagner comme ça sur des contenus qui vont continuer de les déranger. Voilà la première chose que j'avais envie de dire.
Cathy.
Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit surtout Violaine, c'est-à-dire qu'on est très en retard. On est vraiment très très mauvais. Mais je pense que c'est pas parce qu'on est mauvais en retard qu'on doit se dire, ben finalement, je suis pas d'accord avec toi, Violaine, en disant, ben on a de la chance, les parents et les enfants qui viennent ou les jeunes, ils nous attendent pas sur ce terrain-là. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on essaie, qu'on invente des choses qui font qu'on est aussi dans le coup et qu'ils arrêtent de penser qu'on est ce qu'on a entendu tout à l'heure, qui, je pense, est extrêmement révélateur et très, très vrai. Voilà. Je crois qu'il faut... Enfin, on peut en reparler, mais je crois qu'il faut essayer. Alors, quelquefois, ça marche pas très, très bien. C'est-à-dire que, là, pour aller un peu plus loin, les bibliothèques, donc Grenoble ou, je pense, à Toulouse, qui ont créé des blogs... Je suis allée tout de même voir, c'est-à-dire les propositions de Toulouse, il y a finalement peu de jeunes qui vont faire des commentaires ou qui vont faire des propositions. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je pensais qu'il y en aurait beaucoup. Et à Grenoble, on a fait le blog jeunesse qui s'appelle, des bibliothèques jeunesse qui s'appelle Trop Lire. On a fait le choix de pas simplement proposer des ouvrages ou des documents ou des choses qui nous plaisaient, mais de parler aussi, pas simplement aux jeunes, mais aussi aux éducateurs, aux parents, aux adultes. Mais le blog a un an de fonctionnement, donc le recul est très mince. Mais par contre, on n'a pas encore vraiment de réflexion, de proposition des jeunes. Donc je me dis que bon, il faut que ça passe dans les mœurs, peut-être. Enfin si, je me dis ça parce que je suis optimiste, il faut aller de l'avant. Peut-être que je me trompe complètement. Mais tout de même, on peut pas faire l'impasse du fait qu'ils sont tous effectivement avec leurs ordinateurs, qui sont branchés, qui font plein de choses en même temps, et que il faut qu'on invente. On n'a pas trouvé, mais il faut qu'on cherche. Je pense que en fait il y a deux choses, c'est-à-dire il y a à la fois les bibliothécaires qui voudraient investir, on va dire, la communication via les réseaux, et on essaye de le faire aussi. Il y a, c'est-à-dire créer des blogs, mais c'est les bibliothécaires parlent. Je crois que je parle trop près. Les bibliothécaires parlent aux lecteurs, ou les bibliothécaires parlent aux autres bibliothécaires. Et après, il y a toute une autre mouvance qui voit le jour. Alors sur Lyon, il y a évidemment des expériences qui sont menées, qui sont vraiment positives, qui sont comment on peut utiliser le numérique dans le cadre de la médiation qu'on peut faire ou des animations qu'on peut faire avec les jeunes. Alors bon, il y a des collègues dans la salle qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais ça peut être des réalisations, des sortes de clips pour mettre en avant certains romans qui ont été aimés. Ça peut être des groupes pour des clubs de lecture sur Facebook. C'est utiliser leurs outils pour des médiations qui sont les nôtres. Et ça, j'y crois à la rigueur beaucoup plus que quand on transfère notre rôle de bibliothécaire sur le net. Et l'autre grande question par rapport à ces mutations numériques, c'est vraiment une question de légitimité, c'est-à-dire comment nous, en tant que bibliothécaires, on parlait de nos missions, de nos compétences, on a déjà du mal à définir nos missions de bibliothécaire jeunesse. On a trouvé ça très facile de donner les problèmes numériques, sans doute à des emplois jeunes qui sont devenus médiateurs, donc à des personnes extérieures. Quand ces personnes sont pas là, on va fermer les espaces numériques parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Alors que je pense qu'effectivement les pré-ados et les ados, ils ont besoin d'aide et ils ont besoin d'être accompagnés. Et bon, il y avait un colloque le 23 septembre sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il est Les actes sont, peuvent être lus, mais sur, organisés par la petite bibliothèque ronde de Clamart, vraiment sur ça. Quel était l'avenir des bibliothèques jeunesse face à l'évolution du numérique et toutes ces questions ont été abordées de, est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on a la légitimité? Faut voir, moi je prends toujours cet exemple, faut venir au département jeunesse de Lapardieu voir les ordinateurs qu'on propose aux enfants. C'est pas des ordinateurs, c'est des dinosaures. Et eux, je suis même pas sûre que pour eux, ça soit un ordinateur. Ça ressemble pas aux un enfant qui a 4-5 ans, je pense pas, je pense qu'il voit des écrans plats. Je suis pas sûre qu'il ait déjà vu des écrans carrés blancs avec des trous. Donc, soit on dit qu'on fait du patrimoine, hein, et on en fait en informatique, soit on s'adapte aussi aux attentes de notre public.
À la limite, ça, c'est plus l'image, à la limite, de nos institutions, de nos autorités de tutelle, qui ont du coup une image qui nous renferme dans un truc traditionnel.
Juste par rapport à... Moi, je ne suis pas bibliothécaire jeunesse, donc j'ai encore un point de vue un peu plus large sur l'offre en direction des publics, que ce soit des publics jeunes ou adolescents. C'est clair qu'une ville comme Saint-Priest, qui est une ville de banlieue, on a un retard considérable en matière d'offres, c'est-à-dire qu'on doit avoir 4 ordinateurs pour tout le public dans la médiathèque, qui parallèlement est une médiathèque qui accueille beaucoup de monde, puisqu'on a 9000 ou 10 000 inscrits, donc c'est vraiment une bibliothèque qui accueille beaucoup de monde, mais on a un retard considérable. Nous, on sent un vrai décrochage, pas tant par rapport aux livres, parce que effectivement, il y a un travail de fond qui a été évoqué tout à l'heure par la collègue de Reims, et j'ai envie de dire que le public adolescent continue à venir à la bibliothèque parce que c'est le seul lieu ouvert aux adolescents, chauffé, très important, chauffage, et c'est un lieu de rencontre. Très clairement, on a cette mission-là, donc j'ai envie de dire, on est privilégié par rapport à ce type de fréquentation. Moi, ma grosse inquiétude aujourd'hui, elle est par rapport à la musique et par rapport aux films. Très clairement, le public de 13-14 ans, qui a l'habitude de fréquenter la partie discothèque pour venir emprunter ses CD, décroche complètement parce que les pratiques ont complètement changé. Et je trouve que on a un retard considérable dans ce domaine-là. On n'a pas encore su s'adapter. On se pose plein de questions. Mais très clairement, je pense que là, c'est pratiquement des secteurs sur lesquels, moi, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on conserve? Là, on a une notion de patrimoine, effectivement. Voilà, donc moi, ça fait partie de mes interrogations. Sur le numérique, on a, Saint-Priest, une spécificité autour de l'image, puisqu'on a notre salon d'illustration, qui n'est pas un salon jeunesse, contrairement à ce que disait Thierry. Puisque, justement, moi, j'ai pas envie de raisonner en termes de public jeunesse, public adulte. On travaille beaucoup sur la notion de famille, en général. Et là, on est en train d'initier des choses autour de la création numérique, puisque, au-delà de ma casquette de directrice de la médiathèque, j'ai également la gestion d'une cyberbase. Je vous avoue que ça a été un grand choc dans ma vie quand on m'a donné cette responsabilité. C'est pas vraiment mon univers naturel. En même temps, ça m'a beaucoup intéressée. On a plus de troisième âge que d'enfants, très honnêtement. Mais aujourd'hui, on est en capacité de proposer des ateliers de création de cinéma d'animation. L'intérêt, c'est de proposer avec des artistes, donc de faire un vrai travail d'action culturelle, et là, de se lancer dans des domaines où on sent un vrai intérêt de la part des publics adolescents et des publics jeunes. Mais ça reste quand même très à la marge. À côté de ça, je vous dis, on a 4 accès Internet sur un bâtiment de 2800 m2, ce qui est... et on n'a pas le son. Ça fait du bruit. Bah oui, on rejoint l'ambiance. Alors, pour l'anecdote, je vais vous la raconter, c'est très drôle. Ça s'est passé il y a quelques jours. On a vu arriver la semaine dernière 2 jeunes Turcs qui parlaient très peu le français, très élégants, en costume noir, chemise blanche, soulignée vernis. Ils venaient à la discothèque pour danser. Et ils ont quand même été très, très déçus quand ils ont visité. Voilà.
Cathy, approuvez, vous voulez rebondir?
Non.
Bon.
Je voulais rebondir, c'est effectivement sur les incompétences des bibliothécaires face au numérique. Et je pense que, j'étais pas là, je m'en excuse ce matin, mais on a tout de même un grand besoin de formation dans ce domaine, et ça c'est indispensable, parce que, comme le disait Violaine, qu'on laisse les cyberespaces, tout ce qui concerne Internet et le reste aux jeunes qui ont été recrutés, et quand ils sont pas là, bien évidemment les bibliothécaires se disent c'est bien, on ferme. Voilà, et ça, on ferme, c'est aussi normal, parce que les bibliothécaires se sentent en danger et incompétentes. Et donc là-dessus, je crois qu'il faut qu'il y ait des formations, il faut qu'on en crée, on en invente et qu'on réfléchisse à ça fondamentalement pour avancer.
Souvent, j'ai l'impression qu'on regrette beaucoup le départ des gens qui étaient formés au CAFB, et on a probablement raison. Et peut-être, j'ai dit peut-être, hein, peut-être y avait de la transmission importante, mais je dis pas ça par démagogie, mais moi j'ai l'impression qu'au contact de collègues qui sont plus jeunes que moi, on a beaucoup, j'ai l'impression qu'on peut apprendre. Bon, il faut des formations construites, mais j'ai l'impression que aussi au fil des journées, au contact de bibliothécaires qui arrivent, moi j'ai l'impression d'apprendre un peu à leur contact au quotidien.
Elles ont appris dans les
îles. Oui, oui. Je dis ça juste pour pas aller toujours dans le regret du départ des CAFB, mais de franchement il y a j'ai des collègues beaucoup plus jeunes que moi qui ont la pratique dont vous parliez, monsieur Huttard, de qui cumule, qui ne hiérarchise pas. Des choses, ne pas hiérarchiser la culture, avoir cette pratique dissonante, je trouve pour les bibliothécaires, c'est vraiment à saisir. Et les jeunes collègues amènent ça. Voilà.
Oui, parce que effectivement, là, vous définissez, je dirais, des bibliothèques qui n'ont pas forcément les moyens qu'elles souhaiteraient avoir, qui n'ont pas encore cette légitimité, mais à la limite, c'est quand même, un combat à mener, comme il y en a d'autres qui ont été menés. On ne peut pas s'en satisfaire. Il y a quelques années, j'avais fait une petite enquête, et il y avait effectivement un bibliothécaire de Normandie qui me disait « Ah oui, on est guetté par les jeunes, parce qu'ils sentent bien que là-dessus, ils prennent le pas sur nous, et du coup, on en a un peu peur. » Alors que c'est... Ce que disait Violaine, c'est quand même un instrument aussi remarquable où on peut amener de l'action culturelle, de l'animation, être à côté d'eux. C'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai qu'on a créé les Mordus du manga à la ville de Paris, où il y a un petit groupe qui représente quand même 180 enfants qui participent à une sélection de livres, et derrière, c'est eux qui font ce choix, qui montent des blogs pour en discuter, pour en critiquer, et il y a des ateliers à la limite pour comment à fabriquer votre manga vous-même en ligne, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de dessinateurs de bandes dessinées, amateurs ou semi-professionnels qui apparaissent sur Internet. Mais à la limite, plus largement, du coup, j'ai envie de poser une autre question. On sent quand même que, peut-être pas pour les enfants, mais très très tôt, il y a une exigence un petit peu participative. Si on est dans la logique, effectivement, à la limite d'un réseau social où je consomme, où je regarde, où je mets des choses, est-ce qu'on ne devrait pas aussi plus souvent faire participer des enfants un petit peu à nos actions fonctionnant dans les bibliothèques. Quand on regarde sur Internet, on voit par exemple que beaucoup de bibliothèques américaines ont des groupes de teens qui participent de la gestion de la bibliothèque, qui sont volontaires pour faire tel type de travail, qu'en cas des plus jeunes, des choses comme ça. Et puis, il y a la fameuse bibliothèque des 100 talents aux Pays-Bas, où il y a des enfants qui ont été associés à l'architecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est totalement irréaliste? Pas du tout dans la mentalité française ou... Qui se lance sur une question piège.
Juste pour l'histoire des bibliothèques jeunesse, les premières bibliothécaires de l'heure joyeuse, elles associaient les lecteurs à beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qu'on a perdu. Peut-être qu'on a eu aussi des difficultés avec les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes, on n'a pas trop parlé de ça, ils ont aussi, et ils continuent à mettre en danger les bibliothécaires, ça arrive encore dans certaines villes, dans certains quartiers, et donc c'est compliqué. Et le rapport entre les jeunes et les bibliothécaires est difficile. Et je crois qu'on a perdu cette idée, enfin cette confiance, et qu'on a pensé qu'on était les seuls capables, parce qu'on était des professionnels, de réfléchir sur la lecture, sur les bâtiments, sur, je sais pas, Internet, etc. Et peut-être que, plus modestement, il faudrait revenir à entretenir ces discussions avec les jeunes lecteurs, bon, à partir de, ou 10 ans même, voilà. Et peut-être, comme moi j'avais dit à Jean-Claude Dutard que j'avais envie de parler des clubs lecture qui étaient très à la mode dans les bibliothèques. On est en train d'en créer à Grenoble et puis ailleurs. Peut-être que par ce biais-là qui est, enfin, l'idée qui est derrière les clubs lecture, c'est effectivement parler des livres ou de musique ou de cinéma. Et c'est aussi avoir un rapport différent avec les jeunes, avec les enfants, et peut-être entendre ce qu'ils vont échanger, l'image qu'ils ont de nous. Et peut-être que en proposant ces rencontres-là, on peut aussi associer effectivement l'ambiance de la bibliothèque. Voilà, c'est peut-être une proposition qu'on peut faire. Mais ça, c'est vrai qu'on a oublié ce qu'ont pensé les premières bibliothécaires, et souvent c'est très important.
Avec Cathy, on a à peu près le même âge, donc on a vécu à peu près les mêmes choses. C'est clair qu'on a tous vécu, enfin, les gens de notre génération, l'expérience de la bibliothèque de Clamart, où effectivement les enfants étaient associés à la fois en termes de réflexion, d'acquisition, mais aussi de prêt, etc. Et il y a eu cette espèce de rupture des années 90. On s'est trouvé confronté, enfin moi je l'ai vécu de plein fouet avec cette rupture, oui, dans le travail avec les publics jeunes en particulier, les publics adolescents, où bah, du coup il y a eu vraiment deux mondes qui se sont rencontrés, qui ne se connaissaient pas. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on soit, alors peut-être aujourd'hui, mais en tout cas hier, on n'était pas prêt à recommencer l'expérience, pour des raisons un peu douloureuses. Je crois qu'on trouve d'autres biais aujourd'hui, mais qui sont des biais un peu faciles. Enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais associer, créer des clubs lecteurs, c'est forcément déjà des gens qui sont dans une pratique active de lecture, de fréquentation de la bibliothèque. Ce sont souvent des gens qu'on connaît, voilà. Maintenant, il y a tous les autres publics qui sont les publics qui viennent dans nos bibliothèques, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il fait chaud. Par contre, avec lesquels la confiance est rétablie, je ne suis pas sûre qu'on soit prêt encore aujourd'hui à aller beaucoup plus loin. Et en même temps, ça serait extrêmement intéressant de réfléchir, par exemple, en termes d'aménagement de salles. Nous, on avait une petite expérience sur l'aménagement de salles d'études qui sont essentiellement fréquentées par des publics adolescents, où en fait, on les a consultés pour savoir ce qu'ils aimeraient. Donc, en fait, ils avaient envie, au-delà d'une grande salle, d'une salle où ils pouvaient travailler en groupe, notion de bruit. Donc, effectivement, on l'a intégré. Et quand ils ont découvert cette salle, ils étaient très étonnés. C'est un public de 14-18 ans, très étonnés de savoir qu'on avait pris en compte leurs demandes. Donc, c'est une salle où ils peuvent parler à voix haute, sans être interrompus par les chutes du personnel. Ils voulaient des petits box. Donc, il y a 2-3 petits box dans lesquels ils peuvent travailler à 1 ou 2. Au-delà de 4, on ne peut plus, parce que je pense qu'au niveau... là, pour le coup, ils sont serrés comme des sardines, donc on leur demande vraiment de respecter ça. Et on a gardé la grande salle. Et voilà, c'est un peu la seule expérience qu'on ait d'associer des publics adolescents en termes d'aménagement d'un espace collectif. Voilà.
Moi, je voulais... J'ai du mal avec ce micro, en fait. Pour moi, je suis pas vraiment pour l'idée de la co-construction. Enfin, je trouve ça compliqué. Puis de toute façon, on part aussi avec, en tout cas dans beaucoup de bibliothèques, avec des salles qui sont existantes. En revanche, je pense qu'il y a un vrai travail de lien. Et là, on l'a vu dans l'enquête de Virginie Repère, enfin qui a été présentée par Virginie Repère. C'est-à-dire que moi, je trouve ça choquant quand les adolescents disent qu'ils ne se sentent pas chez eux et qu'on leur fait bien sentir qu'ils ne sont pas chez eux. Et sur le fait qu'il n'y a pas de communication. Alors qu'on soit mystérieux, c'est plutôt positif. Qu'on soit ennuyeuse, bon, ça me gêne beaucoup. Qu'ils nous voient tout le temps assis aussi. Donc je me dis qu'effectivement, en termes de communication, il y a vraiment énormément de choses à penser. Et sans aller jusqu'à une idée de co-construction, en observant simplement leur fonctionnement, leurs besoins et en écoutant aussi leurs remarques, on peut modifier certaines choses sans être dans une vraie co-construction. À titre d'exemple, sur la Part-Dieu, donc le département jeunesse se situe entre la gare et le centre commercial, on gère beaucoup de flux. Et d'autant plus qu'on ne fait pas le pré-retour dans la salle. Donc on gérait des gens qui descendaient, qui prennent des livres, qui repartent, qui descendent, qui prennent des livres, qui repartent, et beaucoup de monde, beaucoup de prêts. Et les collègues, et moi-même, on se rendait compte qu'on ne connaissait pas les lecteurs, qu'on ne les voyait pas, qu'ils passaient comme ils passaient au supermarché, qu'après, évidemment, ils allaient à la caisse voir les vendeurs qui allaient biper leurs livres. Par rapport à l'image, par rapport au rôle, par rapport à nos missions, ça pose vraiment problème. Et l'une des premières réponses qu'on a pu faire, c'est essayer de réfléchir à comment faire en sorte que les gens ne passent plus, mais s'arrêtent. Aient envie de s'asseoir, aient envie de partager des histoires, soit en groupe, soit avec leurs enfants. Et ça passe par des petites choses toutes simples, c'est-à-dire, où est-ce que moi j'aurais envie de m'asseoir ? Est-ce que moi j'ai envie de m'arrêter là ou pas ? Et je pense que par cette observation-là, on peut arriver à proposer des choses, en tout cas dans le respect des besoins de notre public. Ça va dans des choses vraiment toutes simples sur les besoins d'un parent avec un jeune enfant, c'est de pouvoir garer sa poussette et de pouvoir changer son enfant. Enfin, à la rigueur, il y a besoin d'observer pour améliorer aussi nos bibliothèques et les rendre un peu plus humaines. Et l'autre question par rapport aux ados, je pense effectivement que le lien humain, le rôle humain du bibliothécaire et d'une communauté qui partage autour du livre, autour des DVD, autour de passions diverses d'ailleurs, de musique, de films, etc., c'est là aussi le rôle de la bibliothèque. De créer un lieu où il peut y avoir une rencontre autour d'objets culturels. Et là, c'est aussi vraiment le métier de bibliothécaire jeunesse, c'est de mettre de l'humain au milieu des collections. De bibliothécaire, oui, bien sûr, de bibliothécaire. Oui.
J'ai été frappé ce matin, on est reparti, ou tout à l'heure aussi, la présentation de Delphine, on a reparlé aussi des relations avec le scolaire, alors qui semble toujours un peu difficile, fâché, etc. Et pourtant, j'ai entendu plusieurs fois Sylvie Octobre dire que c'était un enjeu intéressant justement à l'âge de la préadolescence, l'adolescent en disant, c'est très clair, ils disparaissent des musées, point barre. C'est plus compliqué que ça dans les bibliothèques, parce qu'il y a certaines bibliothèques dont ils disparaissent, et puis il y en a d'autres au contraire où ils viennent quand on leur offre ou qu'ils y trouvent des espaces de travail. Et que c'est une opportunité, parce qu'il y a peut-être un moyen justement... Tu disais, il s'arrête, etc. Moi, je me souviens quand j'étais en poste dans un endroit, aussi d'une banlieue, pas de banlieue, c'était un quartier difficile. Il y avait très nettement des populations différentes et il y avait des gamins qui aimaient bien venir à la bibliothèque. D'abord parce qu'ils étaient quand même un peu plus anonymes qu'au CDI, mais parce qu'il y avait cette relation loisir et travail. Ils pouvaient, quand ils se fatiguaient, à la limite, c'était mon boulot, de dire, oh là là, on s'énerve, là, attendez, on se calme. Si vous regardiez une bande dessinée, si vous regardiez un manga, etc. Et là, il y avait un moyen d'accroche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même à faire de ce point de vue-là ?
Moi, je veux bien...
Oui.
Je crois que c'est vous, tout à l'heure, qui avez parlé d'accueil de classe qui était frustrant. Moi, j'ai l'impression qu'à Villeurbanne, c'est plutôt des espaces... qui nous permettent beaucoup d'expérimentation et on développe du coup des compétences plus larges que simplement des automates de prêt et retour, évidemment. On développe des compétences de pédagogue et c'est là que tout à l'heure vous regrettiez que d'autres publics que les scolaires ne soient pas présents. Moi j'entendais, je le regrette aussi parce que finalement ils ne peuvent pas profiter en toute modestie parce que c'est très simple ce qu'on propose, mais ils ne peuvent pas profiter des contenus et des expériences et des partages autour de supports qui ne s'arrêtent pas au livre. Et je trouve que on ferait bien d'élargir notre public. Ce qu'on fait avec le public scolaire, on pourrait en faire profiter les familles. Nous, on réfléchit en ce moment à comment on peut faire des accueils avec autant de contenu sur des formes sans démagogie, en prenant la BD par exemple, la bande dessinée ou l'album. Lire complètement un album, ça s'apprend. On est persuadé que, avec d'autres sociologues, on cède de ce que des sociologues de la lecture nous disent, que le plaisir, il tombe pas du ciel et que on a des clés à délivrer, qu'on délivre beaucoup dans ce cadre scolaire. Et là, on est des médiateurs à part entière, que parfois on oublie d'être pendant nos permanences au public, et on le regrette énormément. Et on voudrait élargir, on voudrait, parce que lire une image en même temps qu'un texte, sans oublier les pages de garde, sans oublier la technique utilisée par un illustrateur, tout ça, ça intéresse évidemment aussi les adultes autour des enfants. Voilà, j'ai répondu un peu.
Dans les portraits que les enfants avaient de nous, j'entends aussi quand même, on est des spécialistes du livre, on connaît bien, et puis de temps en temps quand même, on semble les renseigner sur des choses qu'on aime. Est-ce que nos collections sont parfaitement en adéquation? Là, je vais être un peu provocateur, mais j'ai lu par exemple sur le blog de Claude Poisneau, sociologue bien connu, que nous achetions des livres qui dormaient sur les rayons et que de d'autres façons, nous refusions la présence de la culture populaire dans nos livres. Donc, et j'ai entendu aussi un ex-directeur du livre nous dire, mais pourquoi vous achetez pas Harry Potter en pile? Qu'est-ce que ça vous évoque, le provocateur?
Alors, on achète Harry Potter en pile, et je pense qu'on en a...
On l'achète, mais en fait, on ne le dit pas.
Après, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a à la fois... La collection, de toute façon, elle va se construire par rapport au public et au territoire, et il y en était vraiment question ce matin, donc il n'y a pas une collection jeunesse idéale, et la prise en compte vraiment dans les acquisitions, et notamment dans les gros réseaux, je pense à Sud-Lyon, c'est vraiment de dire que c'est les collègues de chacune des bibliothèques qui peuvent faire les acquisitions pour leur bibliothèque par rapport au public. Donc l'idée, c'est effectivement, ce que disait Nagia, répondre aussi aux attentes de ce public pour qu'il se sente chez lui, donc qu'il trouve aussi des repères. Dans un second temps, il y a aussi offrir des possibilités et ouvrir des portes. Et donc, plutôt qu'on peut acheter des livres qui dormiraient sur les rayons, mais selon moi, notre métier de bibliothécaire, c'est de faire en sorte qu'ils ne dorment pas sur les rayons. Et là, c'est par la médiation. Là, c'est par des animations, c'est par des lectures à voix haute, c'est par des stratégies d'éveiller la curiosité, de surprendre aussi les lecteurs. Un exemple d'animation qui fonctionne vraiment bien sur la Part-Dieu, un mercredi par mois, quasiment toutes les bibliothécaires de l'équipe sont dans la salle, donc on va dire 7-8 personnes, donc pour une fois on nous voit tous. On est en divers endroits et on fait comme des petits ateliers en fait. Et on sort des livres qui sortent jamais, des livres qui sont dans notre conservation, des livres qui sont fragiles, des comptines, des choses comme ça. Et c'est un peu comme un happening en fait, une surprise. Alors il y a des acteurs qui connaissent, d'autres qui connaissent pas, mais ils nous voient et ils nous voient en situation de plaisir, de partage, où on est vraiment dans notre rôle. On n'est pas dans de la prescription, on n'est pas à leur dire « prenez ce livre, il est vraiment bien », on est juste à leur proposer quelque chose qui est dans notre salle, en espérant que ça va peut-être éveiller la curiosité. Et en tout cas, ça change vraiment l'image et la relation qu'on a avec eux, parce que ils nous voient aussi dans les animations. Quand on fait des animations pour les enfants, souvent on ferme les portes pour pas être dérangé ou pour pas déranger. Les animations avec les classes, ils nous voient pas. Donc ils nous voient rarement en situation de lecture. Et après, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un exercice vraiment compliqué, mais c'est un exercice où on est à notre place, vraiment, je trouve.
Ce que tu dis, c'est très juste, et j'ai l'impression que c'est assez spécifique des bibliothécaires jeunesse. C'est ne pas déléguer toute cette partie de médiation et se penser assez modestement légitime pour mettre en voix un texte, par exemple. Je connais des bibliothécaires pour les publics adultes qui s'interdisent cette pratique, ne se trouvant pas à la hauteur, ayant peur d'être à côté du texte, d'être en dessous, au-dessus, de pas. Et je trouve que peut-être qu'il y a quelque chose là chez les bibliothécaires jeunesse qui à mon avis doit durer, c'est ça, ne pas déléguer à des professions qui seraient jugées plus légitimes, c'est plutôt vraiment de s'emparer, quitte à vérifier auprès des légitimes qu'on est toujours juste. Il s'agit pas de, tu as dit tout à l'heure, c'est très vrai, on apprend énormément par nos erreurs, on est approximatif. Je dois dire, par exemple, aujourd'hui, pour moi, là, cette présence, c'est un moment de formation. Ça a l'air de rien, mais je pense que c'est important de le dire dans ce cadre, parce que les bibliothécaires jeunesse ne sont pas un public qui ne parle qu'aux petits, qui aurait un contenu toujours à hauteur de petits et un peu méprisant, mais c'est un métier qui se destine à des publics au-delà de l'enfance. Et je veux dire que prendre la parole devant un public d'adultes, pour une bibliothécaire jeunesse comme moi, même qui sort de la maison du livre, de l'image et du son, qui est une maison... c'est pas un moment forcément évident. Et je le dis parce que je pense que ça nourrit notre métier que de nous confronter à des situations face à des adultes. Et c'est je pense, une direction de notre travail.
Juste pour compléter sur les collections, quand je parle de politique documentaire, je termine souvent par cette statistique. À la ville de Lyon, on a le top 10 de nos prêts en jeunesse. Donc sur les 15 secteurs jeunesse des bibliothèques, ça fait un peu plus d'un million de prêts. Donc quand on prend le top 10 des fictions, dans les 10 premiers titres empruntés sur l'année, il y a Max et Lily dans les 9 premières positions. Et quand on met les BD avec, c'est Tom Tom et Nana, on va dire les 9 premières places, et Max et Lily la 10e. Donc voilà, on peut faire tirer toutes les conclusions de ça. De toute façon, le lecteur trouve et empruntera bien ce qu'il veut dans nos salles.
Mais ce dont vous parliez, c'est-à-dire la présence au milieu, je dirais, des enfants et de la bibliothèque et de lire, c'est vraiment intéressant. Hein, depuis 2000, en gros, les bibliothèques de la ville de Paris font des bibliothèques hors les murs. On n'est pas les premiers à avoir inventé, mais on en fait quand même pas mal. Donc il y a eu 19 bibliothèques hors les murs dans des squares et des jardins de Paris pendant l'été. Et je me souviens très très bien des toutes premières bibliothèques où, au retour, il y avait des enfants qui nous interpellaient en disant « Mais là, vous êtes vachement disponible, vous vous asseyez au milieu d'où, vous lisez des choses, et pourquoi vous faites pas la même chose quand vous êtes en bibliothèque ? On rentre, vous êtes assis derrière un bureau, et même s'il y a personne qui vient vous emprunter, vous n'en bougez pas. Pourquoi il n'y a pas, dans tout un truc, un d'entre vous qui se mettrait à côté de nous et il nous lirait des choses ? Voilà. Avant de vous donner la parole, quand même, juste une petite question. Je me disais quand même que cette question de la jeunesse, elle est peut-être pas, enfin on a vu, il y a des adultes qui viennent en bibliothèque jeunesse, il y a quand même de plus en plus aussi de jeunes qui vont à la bibliothèque adulte, il y a des passages, je dirais quand je suis ado et pré-ado, il y a des choses que j'ai envie de prendre à la section adulte, des choses que j'ai envie de prendre à la section jeunesse, enfin bon, on travaille sur d'autres espaces. Il y a combien de bibliothécaires de section adulte ici ?
Oui, c'est une bonne question.
Enfin bon, deux. C'est dommage, c'est dommage. Dommage. Qu'il n'y en ait pas plus. Ah, là, on a deux représentants de qualité. Ouais. Mais les autres.
Mais je remarque souvent que les bibliothécaires jeunesse peuvent être amenés à remplacer des collègues en adultes. Qu'en revanche, quand c'est des collègues jeunesse qui sont absentes, les bibliothécaires adultes ont énormément de mal. Mais pas forcément de mauvaise volonté. Alors déjà, il y a sans doute l'image d'un secteur très bruyant avec beaucoup de gestion de conflits, tout ça. Mais il y a aussi presque une légitimité qu'ils estiment ne pas avoir pour s'adresser à des enfants. Bon, ça va aussi avec la connaissance des collections, mais j'ai l'impression que la passerelle se fait moins bien dans l'autre sens.
Alors, je veux bien réagir par rapport à ça, parce qu'en tant que responsable d'équipement, je suis régulièrement amenée à faire un travail de fond auprès des collègues des secteurs discothèques, vidéothèques et adultes pour qu'on puisse tourner entre les différents secteurs, y compris l'accueil, qui est souvent un poste un peu méprisé, alors que c'est une fonction essentielle, puisque ce sont les premières personnes qui voient les gens qui viennent s'inscrire. Donc transmettre quelque chose sur la médiathèque, c'est déjà ce poste-là. Mais arriver à amener les collègues des différents secteurs à travailler sur le secteur jeunesse, ça fait 2 ans que je me bats pour ça. C'est vécu comme un secteur difficile, comme un secteur fatigant, il faut le dire. D'abord parce que les enfants empruntent énormément. Enfin, chez nous, ils peuvent prendre jusqu'à 10 livres. Donc, c'est clair que bah, quand on a une famille avec 4 enfants qui prend, bah, ça fait 40 livres et il faut les passer, etc. Et c'est un secteur où il faut beaucoup ranger. Alors, moi, je suis personnellement de la Ligue anti-gommettes parce que je ne comprends rien à vos systèmes de classement. Mais bon, je fais des efforts quand même. Mais honnêtement, je trouve que c'est extrêmement... Alors, moi, je le fais de temps en temps d'aller faire un peu de prêt au secteur... jeunesse, parce que je trouve que c'est un plaisir. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais simplement parce que ça me permet de voir aussi ce qui se passe dans les différents secteurs. Et en tout cas, chez nous, le secteur jeunesse est le secteur moteur de la médiathèque dans son ensemble. Il est clair que c'est un secteur stratégique sur lequel j'espère un jour arriver à faire tourner l'ensemble des collègues de la médiathèque. Mais je suis tout à fait d'accord avec ta réflexion.
Alors, juste un truc, justement, les bibliothèques hors les murs, ça peut servir à ça. Parce qu'en jouant sur le fait, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est l'ensemble de l'équipe, il fait beau, vous serez dans un parc et jardin, en jouant vraiment de tous les arguments. Alors, j'ai réussi à emmener des bibliothécaires adultes et même des discothécaires. Lire des choses dans les parcs et jardins, ils se sont rendus compte que tous les enfants ne les mordaient pas, qu'ils avaient même certains talents, c'était quand même gratifiant de lire, etc. Et depuis... Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas devenus bibliothécaires jeunesse, mais ils acceptent de temps en temps de faire spécifiquement une animation, une lecture, par exemple, dans une bibliothèque ou dans une section jeunesse.
Mais je vais finir tout de même, c'est un peu pessimiste. Moi, j'ai des collègues qui travaillent en adulte et qui disent très bien, qui disent même quelquefois mieux que les bibliothécaires jeunesse. Et qui, alors, c'est vrai que les secteurs jeunesse des bibliothèques de Grenoble ont toujours été très dynamiques et donc il y a. Mais tout de même, je crois que la grande difficulté, c'est effectivement la méconnaissance des fonds et des collections. Et on est assez démunis si on ne connaît pas les fonds, les collections qui s'adressent aux jeunes. Ça, c'est tout de même difficile. Et aussi, tout ce qui concerne la transmission, le travail autour des livres, de l'image, comme tu disais, des textes, etc., bon, ça s'invente pas, quoi. C'est tout un travail que nos collègues des adultes n'ont pas forcément. Et donc, c'est un peu difficile. Et je voulais rajouter tout de même que quand, au bout d'un certain temps, la majorité des bibliothécaires des secteurs ou spécialisés en jeunesse sont fatigués et donc vont passer dans les secteurs pour adultes. Donc, ça, c'est comme ça que ça se passe et c'est tout de même assez navrant. Et d'autre part, la majorité des directeurs de bibliothèques n'ont pas de compétences en ce qui concerne les bibliothèques, les secteurs jeunesse des bibliothèques. Tout de même, ça a changé, mais ça continue.
Ça a changé, et il y a beaucoup de directeurs aujourd'hui qui ont été à un moment en jeunesse.
Je vais être méchante, il y a combien de cours de formation sur la littérature de jeunesse à l'ENSIB? Voilà.